Question publique sur la première.
Jean-Marc Nollet qui a donc présenté son rapport économique, Jean-Pierre.
Oui, on peut se demander si un nouveau nom va-t-il apparaître dans la gestion de l'État, l'économologie, les écolos et en particulier vous, Jean-Marc Nollet, vous appuyez sur la pédale de la conversion d'une économie capitaliste à une économie de projet. Vous voyez que je vous ai lu, vous réfutez le qualificatif d'étatiste, mais vous voulez quand même que l'État, avec son budget, avec ses lois, ses incitants, redirige l'argent public et privé, par exemple les fonds de pension, vers le développement durable et vous dénoncez entre autres aussi les axes donnés à la recherche en Belgique et en Europe, 80% dites-vous, vers le nucléaire et peanuts pour l'éolien, l'hydrolien et le solaire.
070 22 37 37, c'est le numéro que vous pouvez former encore maintenant pour poser vos questions à Jean-Marc Nollet. 070 22 37 37 ou bien via SMS et c'est le 30 51. Voici la première question.
On parle beaucoup de réchauffement climatique, on parle beaucoup de changement dans nos comportements. Alors moi je me demande ce que Écolo attend pour parler de décroissance, de changement radical de nos manières de vivre, y compris dans l'économie. Voilà, je crois que pour polluer moins, on doit consommer moins et qu'il faut avoir le courage de le dire.
La décroissance, vous n'aimez pas. Hein.
Dans le programme, ce que nous utilisons clairement comme titre même de chapitre, c'est la décroissance de l'utilisation des ressources fossiles. Parce que on ne peut pas vouloir remplacer un dogme, celui de la croissance absolue, par un autre dogme qui serait la décroissance de tout. Nous, on veut la croissance du bonheur, de la qualité de vie. Et donc, cela passe par, effectivement, et là on l'assume totalement, une décroissance de la consommation. On en a parlé tout à l'heure, et notamment la consommation d'énergie fossile. Il est clair que face à l'enjeu du réchauffement climatique, il y a d'une part les énergies renouvelables, il y a d'autre part l'efficacité énergétique, tout ce qu'on a dit en matière de recherche est valable pour l'efficacité énergétique, et puis le troisième volet, c'est la réduction de notre consommation énergétique et notamment de tous ces petits gestes qui peuvent aider pour réduire notre facture d'électricité d'une part et notre consommation et donc le lien avec le réchauffement climatique. Ben, ça commence tout simplement par éteindre les lumières, éteindre son appareil, peut-être utiliser un peu moins le sèche-linge quand il fait beau à l'extérieur et de pouvoir faire sécher son linge dans le jardin, ce qui est une activité humaine très intéressante par ailleurs aussi. Et je pense que tous ces petits gestes-là peuvent aider et peuvent contribuer à une diminution de la consommation. Et puis, n'oublions pas que 20% de la cause de ces gaz à effet de serre, c'est aussi le déplacement et le transport. Et que beaucoup se joue d'une part sur le développement des transports en commun, l'utilisation du train, l'utilisation des bus, y compris le soir, y compris la nuit, comme on a parfois certaines opérations un peu médiatiques la nuit, mais on pourrait le faire, je crois, de manière plus régulière sur la journée. Et enfin, le covoiturage pour ceux qui ne savent pas faire autrement que se déplacer en voiture. Et donc, il y a une partie de décroissance, mais la décroissance est ciblée.
Oui, mais ici, vous parlez du comportement du consommateur et concernant les entreprises, alors?
Alors, ça vaut également pour le comportement des entreprises. Vous savez, il y a trois piliers sur lesquels il faut pouvoir agir. D'une part, les politiques. On en a déjà beaucoup parlé entre 8h-20 et 8h. D'autre part, les comportements individuels et les comportements collectifs des entreprises. Et de ce point de vue-là, dans le congrès qu'on aura demain au théâtre Le Public, demain après-midi, ici à Bruxelles, on a toute une série d'expériences qui sont présentées, notamment d'entreprises qui se prennent en main pour ce qui est de leur déplacement, pour ce qui est de leur propre consommation d'énergie et pour ce qui est surtout du projet industriel qu'elles ont. Elles s'appliquent à elles-mêmes une sorte de tableau de bord d'évaluation. Est-ce que oui ou non, on marque notre empreinte écologique de manière trop forte par rapport à nos propres ressources? Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on joue sur les politiques, sur les comportements et sur les techniques. J'y reviendrai sans cesse avec l'impact de la recherche, notamment la recherche fondamentale.
Une autre question sur le rôle de l'État donc dans l'économie.
En fin d'interview, vous avez mentionné le fait que Écolo était partisan d'une plus forte régulation de l'économie et des marchés financiers par l'État. Je suis d'accord avec vous, mais en Wallonie, l'État n'est pas régulateur, l'État est acteur, et même un acteur plus que dominant. Donc pourrait-on en déduire que Écolo, après les prochaines élections, s'il revient au pouvoir, s'engagera à réduire le poids de l'État dans l'économie belge? Merci.
Écolo s'engage, je l'ai dit, à ce que l'État utilise tous les outils qui sont à sa disposition. J'ai parlé des commandes publiques tout à l'heure, 14% du PIB, ce n'est pas rien, c'est 45 milliards d'euros. Et puis, il ne faut jamais oublier que derrière ce que l'État fait, ce sont les impôts, en fait. Ce sont les impôts qui alimentent les budgets d'État. Donc, c'est l'argent des citoyens. Et la question que nous osons ouvrir, parce que nous estimons qu'il est essentiel de pouvoir l'ouvrir aujourd'hui, alors qu'elle semble être comme ça diffuse, voire même taboue pour certains, c'est de se dire, oui, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui l'État fait fait avec l'argent qu'il collecte auprès des citoyens. Donc l'État est non seulement régulateur, mais il est effectivement acteur avec l'argent du budget qu'il collecte auprès des citoyens. Et c'est en cela qu'on réouvre, mais de manière totalement différente, la question de l'État. Ce que nous posons aujourd'hui, c'est la nécessité d'un État moderne qui réfléchit à ce qu'il fait avec l'argent qu'il collecte, et non pas simplement l'État qui dit « bah oui, voilà, aujourd'hui je vais investir dans telle et telle chose, et demain, parce que la mode aura changé, j'investirai dans autre chose ».
Oui, mais quel est le volant dont dispose réellement l'État? Parce qu'on sait quand même que l'État, bon, il faut payer les fonctionnaires, il faut payer l'enseignement, il faut payer toute une série de fonctions, y compris régaliennes, justice, prison et autres, il faut payer la dette. Même si c'est en diminution, ça représente quand même encore un paquet de milliards à rembourser tous les ans. Quel est le volant réel que l'État a pour mener la politique que vous voulez mener ?
Le volant est assez important. Je dis, quand je cite les montants de 45 milliards d'euros pour l'ensemble des commandes publiques, ne me dites pas que c'est rien. C'est quasi l'équivalent du budget de la sécurité sociale, du budget annuel de la sécurité sociale. Quand je dis que l'État, plutôt que d'acheter des droits de pollution à l'étranger, comme ils le font pour l'instant, parce qu'ils ne vont pas atteindre en interne le protocole de Kyoto, doit le faire plutôt en Belgique ailleurs, c'est un volant de l'État, et c'est sans prélèvement de nouveaux impôts. Quand je dis par ailleurs que l'État doit orienter et réguler les fonds de pension pour que eux-mêmes placent, savez-vous qu'en Belgique il y a tout compris deuxième, troisième pilier de pension, plus de 120 milliards d'euros qui sont placés dans les fonds de pension.
Quasi presque, on approche la moitié de ce que...
Du PIB, oui,
du
tout PIB, à fait.
Mais non, mais vous avez du budget de l'État aussi.
Et on est au-delà du budget de l'État. Mmh. Hein, si on retire la sécurité sociale, on est au-delà du budget de l'État. Donc ce sont des masses financières sur lesquelles il n'y a, je dirais, aucune parole politique. Et presque aucune parole syndicale non plus, mais ce sont des leviers essentiels, fondamentaux, pour qu'on puisse demain aller vers cette économie, comme vous dites, avec ce beau terme, parce qu'il permet enfin de voir une recherche de qualité de la vie. Ce qu'Ecolo veut faire, et c'est ça aussi le sens du congrès de demain, c'est de redonner du sens à l'économie. Aujourd'hui, c'est une sorte de grande main invisible. On ne sait pas où on va. Un jour, on tire par là, un jour, on tire par là. Mais entre-temps, les emplois disparaissent chez nous. Et il y a, dans une situation sociale telle que la Belgique, pays prétendu développé, plus d'1,5 million de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a encore plus de 500 000 demandeurs d'emploi inoccupés. Et à côté de ça, des gisements d'emploi sont possibles, mais on va les dépenser à l'étranger en devant payer des droits de pollution. Il y a quand même un paradoxe là qu'Ecolo aujourd'hui doit pouvoir remettre en avant.
Au niveau de la consommation, je crois que c'est tout qui a un peu d'honnêteté intellectuelle doit se rendre compte que c'est totalement intenable, que notre système ne tient pas la route et que la croissance à tout craint a quand même des limites. Pourquoi ne pas changer les indicateurs et prendre en compte les indicateurs de développement humain plutôt que la croissance de PIB qui ne reflète rien du tout. Les chiffres nous le disent aussi, n'apportent pas spécialement une meilleure qualité de vie. Bonne continuation.
Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire l'auditeur. Et ça me permet d'articuler avec une autre proposition phare que les écologistes déposent dans le cadre des éventuelles négociations et en tout cas dans le cadre de leur programme. Il existe aujourd'hui en Belgique une inspection des finances dont l'objectif est de vérifier qu'on n'augmente pas notre dette financière, notre dette budgétaire. Il est plus que temps d'installer en Belgique une inspection du développement durable dont l'objectif serait d'être le gendarme par rapport à l'accroissement de notre dette environnementale. Cette dette aujourd'hui, on la payera inévitablement demain. Et pour l'instant, on est en train de l'augmenter. Notre empreinte écologique sur la Terre, ici, en tant que Belge pour nous, est équivalent à 3 planètes. Donc, si tout le monde devait aujourd'hui adopter le mode de consommation, le mode de vie, le mode de déplacement des Belges, il nous faudrait 3 planètes. On n'en a qu'une. Il est donc plus que temps de réduire cette dette. Et autant, à la fin des années 80, notamment sous l'impulsion des deux Anne Voivoire de Verhofstadt, même quand il était ministre du Budget et des Finances, eh bien, on a pu mettre en place un mécanisme qui contrôlait la dette budgétaire, autant à la fin des années 90, sous l'impulsion du Anne van de la Note. On a mis en place un mécanisme qui commençait à contrôler les dettes sociales, notamment pour le vieillissement, pour les pensions, autant aujourd'hui, et c'est la question du 21e siècle, il est temps de mettre en place un mécanisme qui réduise la dette environnementale. Et pour ce faire, il faut créer une véritable inspection du développement durable. C'est une proposition qu'on formule, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'en parler, mais elle s'articule parfaitement avec la demande ici, je pense, de l'auditeur de réellement influencer sur ce genre de comportement.
Oui, mais inspecter n'est pas encore dire on retourne à la bougie.
Oui, mais si... Attendez, je n'ai jamais dit, et il ne faut pas, sauf pour les actions symboliques comme hier, bien entendu, il faut saluer les 300 000 ménages avec les parents, les enfants qui étaient derrière cette action-là, qui ont hier effectivement vécu peut-être pendant 5 minutes sans lumière ou sans bouger, mais de manière symbolique. Il est évident que notre proposition, vous savez, les éoliennes, ça peut faire tourner la RTBF, comme ça peut faire tourner les grands magasins, comme ça peut faire tourner la SNCB. Hein. C'est valable aussi pour la biomasse, c'est valable aussi, on le sait bien aujourd'hui, pour l'énergie solaire, évidemment. Vous savez que le soleil procure sur Terre, 8000 fois l'ensemble des besoins énergétiques de la planète. Mais ce qui manque, ce sont peut-être les processus pour passer de cette énergie potentielle en énergie réelle. Et là, il faut, et je reviendrai constamment avec ça, investir dans la recherche fondamentale.
C'est Jean-Marc Nollet qui est votre invité ce matin.
Question publique 070 22 37 37.
Premièrement, le nucléaire a un bilan CO2 égal à zéro, d'où diminution du réchauffement climatique. Deuxièmement, le nucléaire de quatrième génération, ses déchets, on pourra manger dessus dans 300 ans. Il faut faire confiance, je crois, aux innovations en ce domaine. Troisièmement, les ressources et réserves d'uranium sont de l'ordre de 100 à 250 millions de tonnes. Elles permettraient d'alimenter 2000 réacteurs à eau légère pendant 250 ans. Il y a aussi les réserves d'uranium provenant de l'eau de mer qui permettraient d'alimenter 2000 réacteurs à eau légère pendant 5000 ans et les surgénérateurs pendant 500 000 ans. Pourquoi les écolos rejettent-ils le nucléaire ? Sont-ils bien informés ?
Vous amenez quelques chiffres ce matin, mais cet auditeur a les siens aussi.
Oui, il a les siens, mais je crois qu'il suffit de retenir un seul des chiffres pour montrer que son argumentation ne tient pas la route. Il faudrait donc attendre 300 ans pour avoir une solution via le nucléaire. Mais vous pensez vraiment qu'on aura le temps d'attendre 300 ans ? Le rapport du GIEC qui va paraître aujourd'hui nous dit quoi ? Il nous dit que le réchauffement climatique, si rien n'est fait, va augmenter la température moyenne d'environ 3 degrés d'ici la fin du siècle, donc d'ici 90 ans. Et l'auditeur ici nous dit, attendez 300 ans, ça va bien se passer, on va peut-être.
Non, il dit peut-être. Les déchets seront inactifs
dans 300
ans. Entre-temps,
les déchets, ils sont là. Hein, on doit trouver où on doit les placer. Il y a 70 000 mètres cubes de déchets nucléaires qui, une fois que les centrales seront démantelées, devront être trouvés. Et si on attend encore 300 ans, ils seront encore plus nombreux. On va les mettre où ? Dans votre jardin ? Non, je crois pas. Je crois qu'il faut aujourd'hui se dire que c'est une énergie qui est dépassé, d'autant plus qu'il y a d'autres solutions. S'il n'y avait pas d'autres solutions, on pourrait encore se poser la question autrement. Mais il y a d'autres solutions. Et en fait, ce potentiel, il est entre nos mains. C'est à nous à faire le choix.
Mais il faut une période de transition ?
Il y a une période de transition. Vous savez, quand Olivier Deleuze a réfléchi en profondeur à cette loi de sortie du nucléaire, il n'a pas dit « demain, on sort du nucléaire ».
Il a dit 2025.
Exactement, vous connaissez très bien les textes, on sort en 2025, ce qui nous laisse le temps. Mais là où moi j'accuse le gouvernement socialiste libéral de ne rien avoir fait, c'est sur le développement des énergies renouvelables. En Belgique aujourd'hui, avez-vous une idée de la part de consommation électrique finale consacrée via les énergies renouvelables ?
On sait que c'est 60% de l'énergie électrique.
Non, c'est 2%. 2%.
Non, c'est juste quand je dis 50 à 60% de l'énergie électrique est créé par le nucléaire.
Ah, vous parlez du nucléaire, mais moi je parle des énergies renouvelables. Excusez-moi. Non. Donc 2%, à l'heure actuelle, 2% de l'énergie consommée en Belgique est de sources renouvelables. C'est totalement inacceptable.
C'est mieux ailleurs ?
C'est beaucoup mieux ailleurs. Je peux vous citer quelques chiffres, mais très rapidement. En Allemagne, on est à 5%. En France, on est à 6%. Au Danemark, on est à 14%. Et en Autriche, Finlande et en Suède, on est déjà au-delà des 20%. Et Olivier Deleuze a prévu un cadre pour sortir du nucléaire, adopté avant 2003. Entre 2003 et 2007, on a stagné à 2%, alors qu'il y avait là une fenêtre d'opportunité pour la recherche, pour le développement et pour des filières d'emploi. Rien n'a été fait. Alors aujourd'hui, l'Europe se donne pour objectif d'arriver à 20% en 2020, mais avec nos petits 2%, nous n'y arriverons pas, ce qui veut dire que ce sont des filières d'emploi qui partiront encore ailleurs. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à investir bêtement dans le nucléaire, bêtement, parce qu'il ne procure pas cet emploi qui est nécessaire. Voilà le problème.
Toujours à propos du nucléaire, voici cette question.
Les écolos n'ont de cesse de se manifester contre le nucléaire en Europe, d'exiger la fermeture des centrales. La Chine vient d'acheter une centrale nucléaire à l'américain Westinghouse, et compte en acquérir bien plus. On aurait pu s'attendre à une vague de critiques, de manifestations, de mobilisations de la part des écolos européens. Il n'en est rien. Pour les écolos, les centrales hors d'Europe n'ont-elles donc pas d'importance ?
Non, absolument pas. Et pour tout vous dire, nous sommes manifestés auprès notamment de l'ambassade de Chine et d'autres ambassades qui développent le nucléaire. Aujourd'hui, de par le monde, il y a 450-460 centrales nucléaires. Si demain, il fallait résoudre le problème du réchauffement climatique par le recours nucléaire, il faudrait multiplier par 10 ce nombre de centrales. Ce qui veut dire installer à échéance de 10 ans, parce que ce sont les échéances qu'on a pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique, installer 3600 centrales nucléaires. Mais où va-t-on les mettre? Dans des pays si peu sûrs que l'Iran? Dans des zones comme la Palestine ou Israël? Ou alors chez nous, mais dites-nous où? Dites-nous où, parce qu'en Belgique, il n'y a plus la place pour en installer. Hein. Mais pour l'instant, la consommation finale d'électricité de par le monde, et en Belgique, c'est environ la même proportion, la proportion finale d'utilisation d'énergie par le nucléaire, de source de nucléaire, est de 10%. 10%. Ce qui veut dire que si on pense lutter contre le réchauffement climatique, il faudrait augmenter par le nucléaire, il faudrait passer de 10% à 100%. Ça veut dire installer 3600 centrales nucléaires. Mais où va-t-on les installer en étant sûr qu'il n'y a pas d'accident? Et d'autre part, quelle solution aux déchets? Même Didier Reynders a dû reconnaître un jour qu'il n'y avait pas de solution aux déchets nucléaires. Alors je pense qu'il est temps de quitter cette folie d'imaginer que la solution au réchauffement climatique, c'est le nucléaire. Mais certains lobbies sont très forts, sont très puissants. Mais je pense que d'autres commencent à se faire entendre et ils arrivent à démontrer qu'on peut sortir et du charbon et du nucléaire et des pollutions au CO2 et du nucléaire d'ici 2020-2025.
Voici une autre question.
On nous demande de consommer sans gaspiller, de consommer autrement pour aider les citoyens à être responsables de leur empreinte écologique. On leur fait des offres intéressantes pour alléger leur facture énergie. Des milliers de ménages y souscrivent. Et quand c'est fait, ils augmentent les tarifs de 6 à 15%. Je parle, vous l'avez compris, de l'électricité avec compteur bihoraire. Les producteurs et les distributeurs sont des voyous. Un kilowatt d'aujourd'hui et un kilowatt d'hier, c'est pareil. Seuls les profits changent de portefeuille au détriment du consommateur qui paye. Une fois de plus, l'économique ne fait pas bon ménage avec les dispositions environnementales. Que pensez-vous de cette méthode qui risque d'augmenter la facture des citoyens?
Exactement, voilà encore une belle illustration où, on y revient, l'État doit jouer son rôle de régulateur et il ne le fait pas à suffisance. Et quand je dis l'État, ce n'est pas seulement l'État belge, je vise aussi bien entendu la Commission et l'Union européenne.
Alors une autre question, vous avez donc évoqué, c'est une question par SMS, la présence plus accrue de l'État donc au niveau économique et écologique. Pourrait-il alors obliger les gens à avoir un comportement écologique au nom de la sauvegarde de l'humanité et aussi prendre par exemple alors des mesures carrément contraignantes et impopulaires?
Je pense que l'État ne doit pas attendre qu'effectivement tout soit changé avant d'intervenir. Mais ce qu'il faut bien aujourd'hui se rendre compte, c'est que l'État est en retard par rapport aux évolutions de certains comportements de la part des gens. L'État est en retard parce qu'il y a des gens qui attendent de pouvoir acheter de l'électricité verte et qui ne peuvent pas le faire. Il y a des gens qui investissent déjà aujourd'hui dans les panneaux solaires, dans l'isolation énergétique chez eux, mais qui n'est pas suffisamment aidée par l'État. Et donc, je pense qu'il faudrait renverser la question et de se dire, qu'est-ce que l'État peut faire pour davantage aider aujourd'hui les citoyens à adopter ce genre de comportement? Mais il est vrai, parce qu'il ne faut pas le nier non plus, que pour certaines mesures, qui pourraient être impopulaires auprès de certains lobbies, nous devrons intervenir. Pourquoi? Parce qu'il y a 40 ans, on s'est battu pour aller sur la Lune, et qu'aujourd'hui, il est plus que temps de se battre pour pouvoir rester sur la Terre.
Retrouvez Questions publiques tous les jours de la semaine entre 8h40 et 9h.
La première.